Attention, départ. Après-demain, lundi, un temps fort de la démocratie. Le gouvernement va présenter son budget pour 2019. Tous les projets de loi de finances sont de petits moments de vérité derrière les chiffres. On voit les choix ou l'absence de choix. Alors au final, le pouvoir d'achat, cette année, ça a grincé, surtout chez les retraités, milieu de cordée, automobilistes et fumeurs. Mais bonne nouvelle, en 2019, le pouvoir d'achat est annoncé à la hausse. Ce sera combien? Ce sera pour qui? Elle est là la question. Et moi alors? Ce n'est pas que les Français aiment plus l'argent que les autres, c'est que ça les rassure plus. Les Français sont des pessimistes. Le logement, le travail, l'éducation, la santé, ils pensent qu'on ne va pas vers le mieux, en tout cas pas pour tout le monde. Nous nous angoissons d'un déclin collectif. Nous espérons pouvoir acheter des filets de sécurité privés. Pour résumer, en 2018, en 2019, Emmanuel Macron veut du changement et en attendant, les Français veulent de l'argent.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Samedi 22 septembre, quand les feuilles des arbres commencent à roussir, c'est que commence la saison des projets des lois de finances. Bienvenue, c'est le Magéco, réalisé par Coy Nguyen. Maud Benakcha est notre attachée de production. Et ce matin, c'est Paul Percheron qui nous accompagne à la technique. Alors, est-ce que le gouvernement maltraite les retraités? Et si oui, pourquoi? Ce sera notre débat ce matin. Bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Et bonjour Emmanuel Le Chypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Emmanuel, dites-moi, l'année où le pouvoir d'achat des Français a le plus progressé, je sais que vous savez quelle année c'était.
Mais oui, c'est un paradoxe parce que là, les Français, ils sont tous angoissés par leur pouvoir d'achat à la rentrée. Et en fait, le trimestre qui va venir, c'est-à-dire le dernier trimestre de 2018, eh ben, il faut remonter à 2006 pour trouver un trimestre aussi favorable au pouvoir d'achat, si on en croit les prévisions de l'INSEE. Et pour trouver une augmentation significativement plus forte, il faut remonter à 2002. Donc oui, ça va être un très bon trimestre pour le pouvoir d'achat. Notez que les chiffres
après,
sont sortis. Le premier
oui,
a été celui de la hausse de la CSG, donc ça a été un vrai coup de massue fiscale. Mais déjà au deuxième trimestre, les chiffres qui sont parus hier montrent que le pouvoir d'achat, là encore, globalement, ouais, macroéconomiquement, a augmenté. J'imagine bien que peu de gens se retrouveront dans cette évolution moyenne.
Bon, les retraités, justement, tiens, on en parlera, on va voir ce qu'ils vont penser de tout ça. À tout de suite pour le débat. Parlons également des Français qui empilent les contrats courts, de plus en plus courts, parfois une journée de CDD. Comment lutter contre la précarité? Vous vous souvenez de la promesse présidentielle, hein, le bonus-malus? Eh bien, vous entendrez le reportage de Louis-Valentin Lopez. Au fond, les choix de l'exécutif sont-ils guidés par des certitudes, voire par une vérité économique? Y a-t-il un seul chemin raisonnable ce matin? Les invités du Magéco sont l'économiste Éric Heyer et le professeur de droit Pascal Lokiek. Avec la sociologue Dominique Méda, ils publient ce livre « Une autre voie est possible ». Et là, évidemment, on a déjà un petit indice de leur réponse. Ça se passera vers 9h45. Comment ça se passe? Comment on pourrait regarder les choses autrement? C'est l'ADN de ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, c'est Judith qui vous a écrit. Qu'est-ce qui se passe avec ce sourire?
Eh bien Judith, sa responsable lui reproche de ne pas sourire suffisamment. Doit-on toujours faire bonne figure au travail?
Alors moi je suis très contente de toute l'équipe du Magéco. Tout le monde sourit. Allez, rendez-vous juste avant 10h. Tout de suite, les retraités sont-ils si mal aimés?
Le 14 mars 2018.
Vous nous avez vraiment pompé.
Je vais vous expliquer.
Oh bah les retraités, dites donc.
Oui, mais je vais vous expliquer.
Emmanuel Macron.
On a travaillé toute notre vie.
Mais vous avez travaillé toute votre vie pour quoi?
Enfin, pour avoir une retraite.
Non, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. Vous, votre retraite, c'est des actifs actuels.
Rentrée 2018.
Oui, Emmanuel Macron nous maltraite.
Pierre Herbs.
Ce n'est pas d'aujourd'hui, hein.
Président de la Confédération française des retraités.
Nous avons subi une hausse de la CSG de 1,7 au 1er janvier 2018.
Alors, pas tous les retraités.
Non, mais une grande partie d'entre eux. Et sans qu'il y ait de compensation, alors que pour les autres catégories, il y avait des compensations. Nous avons juste eu le droit à un merci de M. Macron lors d'une émission télévisée.
Nous entendons ce que nous disent les retraités.
Bruno Le Maire.
Nous savons que nous leur avons demandé un effort.
Ministre de l'Économie.
C'est pas pour remplir les caisses de l'État. Je rappelle que l'effort qui a été demandé sur la CSG, c'est pour améliorer le salaire net de millions de salariés français.
Le gouvernement, plutôt le président de la République, il a un problème avec les baby-boomers.
Xavier Bertrand.
C'est comme s'il les considérait comme des profiteurs.
Président de la région Hauts-de-France.
Et derrière ça, il faut bien voir que les retraités ont travaillé et que leur travail hier, il compte autant que le travail d'aujourd'hui de ceux qui sont en activité.
Mais les retraités ne sont pas les dindons de la farce.
Gérald Darmanin.
Nous évoquons un 0,3 d'augmentation.
Ministre de l'Action et des Comptes Publics.
C'est certes en dessous de l'inflation, mais ça a été le cas depuis extrêmement longtemps. les retraites ne baisseront pas. Elles augmentent pour une très grande partie d'entre eux, notamment ceux qui ont les retraites les plus petites.
C'est ça qui est important, c'est qu'on donne des vrais chiffres.
Laurent Wauquiez.
En moyenne.
Président Les Républicains.
Les retraités vont perdre 200 à 300 euros supplémentaires cette année avec cette moindre valorisation qui vient s'ajouter à la perte de CSG. Je pense que l'acharnement contre les retraités va trop loin.
Les retraités comprennent surtout
Adrien Quatennens
que pour le moment et depuis le début de ce quinquennat, Emmanuel Macron leur fait les poches.
Député La France Insoumise de la première circonscription du Nord.
Ils apparaissent pour lui comme ceux qui peuvent le faire le plus d'efforts, mais en l'occurrence, toute la politique budgétaire du gouvernement a été de redistribuer toujours plus d'argent à ceux qui tiennent le plus de capital, et les retraités, eux, ont été durement tapés au portefeuille.
Il n'y a pas une matinale sans qu'on ait un appel d'auditeurs retraités qui dit qu'il n'en peut plus. Est-ce que vous entendez leur colère, monsieur le Premier ministre ?
D'abord, je veux dire qu'ils ne sont pas mal aimés. Je dis ce que moi je sens aussi et ce que je ressens. Ils ne sont pas mal aimés.
Ils ne sont pas mal aimés, parole du Premier ministre Emmanuel Le Chypre. Peut-être, mais est-ce qu'ils ont raison d'être en colère aujourd'hui, les retraités ?
C'est vrai que quand on se met dans la peau d'un retraité, oui, on peut avoir l'impression quand même d'en prendre plein la figure. Parce qu'il n'y a pas que Emmanuel Macron. Hein. Depuis 10 ans, on leur a quand même demandé effectivement beaucoup d'efforts. Et à intervalles réguliers, on vient les taper. Il y a eu la suppression de la demi-part des veuves hein, entre 2008 et 2014. On les a rendus redevables des taxes locales, de l'impôt sur le revenu. On a augmenté la contribution de solidarité pour l'autonomie. La revalorisation des pensions, elle a quand même été limitée. Fiscalisation de la majoration de 10% sur les pensions pour familles nombreuses, la hausse de la CSG, etc. Donc oui, c'est vrai qu'ils ont raison de penser qu'on leur a demandé beaucoup ces dernières années.
Et aujourd'hui, Christian, la philosophie, c'est on transfère avec la CSG, on transfère la richesse des retraités vers les actifs ?
On transfère de la richesse de tous ceux qui ont un revenu, puisque la CSG, ça porte aussi sur les revenus du capital, n'oublions pas. Donc tous ceux qui ont un revenu beaucoup plus large qu'un salaire pour diminuer les charges ou les cotisations sociales qui pèsent sur les salaires, parce que ce gouvernement croit qu'en baissant le coût du travail, ça va créer beaucoup d'emplois, ce qui est une philosophie fausse.
Donc, non, il faut juste rappeler. Non, mais
l'idée de départ. Il est déjà énervé.
Mais oui, parce que l'idée de départ, elle part quand même d'un constat réel. C'est que le fait que les cotisations sociales, que la protection sociale pèse exclusivement en France sur les salariés pénalise la compétitivité des entreprises. Si vous prenez par exemple un salarié qui gagne 45 000, non mais très vite, un salarié qui gagne 45 000 euros brut, il coûte à son patron 54 000 euros en Allemagne, 64 000 en France. Donc oui, il y a un problème global. Et l'idée c'était de dire, si on baisse les cotisations, on répartit sur l'ensemble de la population la protection sociale. C'était pas absurde comme raison.
Mais il n'y a pas de repas gratuit, Emmanuel. Si on donne quelque chose à quelqu'un, on le pique aux autres. Et là, pour les retraités, c'est la triple peine avec Emmanuel Macron. Il faut déjà se rappeler que, je suis étonné qu'Emmanuel n'ait pas mis ça en avant tout à l'heure quand il a fait la longue liste de ce qu'on a fait contre le revenu des retraités, c'est que vous avez les retraites qui sont indexées sur l'inflation. Elles progressent comme l'inflation, alors que les salaires progressent comme la productivité dans les entreprises. Et la productivité va plus vite que les prix. Donc il y a un écart qui se creuse. C'est ça le vrai problème pour les retraités, c'est que l'écart se creuse entre les revenus des retraités et les revenus des gens qui sont actifs. Et là-dessus, Emmanuel Macron en a rajouté. Il y a la hausse de la CSG qui démarre à peu près lorsque les gens gagnent 1300, 1400 euros net par mois, c'est-à-dire à peu près la moyenne. Donc c'est pas les plus aisés, comme j'ai pu le lire de temps en temps dans la grande presse cette semaine, c'est pas les plus aisés des retraités qu'on mobilise. C'est l'ensemble des retraités, puisqu'on est à la moyenne. Tout ça va se traduire par 2,5 milliards à 3 milliards de ponction sur les revenus des retraités. Et quand le Premier ministre nous dit « j'avais fait un effort pour 100 000 personnes, je fais un effort pour 300 000 personnes ».
Est-ce que c'est important ? Oui, 300 000.
Ça va faire quelques centaines de millions par rapport à 2,5 milliards, 3 milliards. C'est de la goutte d'eau. Là-dessus, Emmanuel Macron, les retraites devaient être valorisées au mois d'octobre. Le mois prochain, il a dit « bah non, ce sera en janvier prochain ». Et en plus, il nous annonce qu'en janvier prochain, ce ne sera pas comme l'inflation, comme le dit normalement le programme des retraites.
L'inflation, rappelez-nous le chiffre.
Ce sera à peu près 1,6%. Et là, il a dit « bah non, ce sera 0,3 et 0,3 pendant 2 ans. Ça veut dire que l'écart entre les revenus des retraités et les revenus des actifs va encore plus se creuser. Alors quand le président de la République dit « Ah, il faut arrêter d'emmerder les retraités », oui d'accord, mais il leur a fait les poches. Donc maintenant, il peut dire ça, bien sûr.
Alors après, oui, il leur a fait les poches, mais il y a la question de fond. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a cette idée que les retraités, on peut les ponctionner parce qu'ils ont peut-être des revenus quand même plus confortables que les actifs, particulièrement que les jeunes. Ils ont peut-être du patrimoine, Emmanuel Le Chypre. Je parle de justice sociale. En fait, je pose la question de la justice sociale.
Là, je suis pas d'accord avec Christian quand il dit l'écart va continuer à se creuser entre les retraités et les salariés. La réalité, c'est que l'écart ne cesse de se creuser au profit des retraités. Depuis des années, le niveau moyen de revenus des retraités, il grandit par rapport à celui des.
Mais on sait pourquoi, Emmanuel.
Il grandit par rapport à celui des salariés.
Pourquoi?
Parce que
les retraités
sont plus diplômés, plus qualifiés.
Ils ont eu des carrières complètes. C'est ce qu'on appelle un effet Noria. C'est juste un effet statistique.
Je crois que quand même, il faut regarder ce qui s'est passé sur les dernières années. Les écarts n'ont jamais été aussi grands en faveur des retraités. Si vous prenez ce que dit par exemple le Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur les 45 dernières années, les revenus des retraités ont progressé beaucoup plus, alors que ceux des jeunes n'ont pas augmenté. Je cherche le chiffre, je vous le trouve tout de suite. Le revenu moyen des personnes de 20 à 29 ans, depuis 70, il a augmenté de 3%, il a stagné. Pour les 60-69 ans, il a augmenté de 152%. Pour les 79 ans, 60-79, de 148%.
C'est un rattrapage. Mais si vous prenez les années 70, on avait des vieux pauvres. On n'en a plus aujourd'hui. Heureusement qu'il y a eu ce rattrapage.
Le patrimoine immobilier, ils n'en ont jamais détenu autant. Le patrimoine financier, ils n'en ont jamais détenu autant. Et puis, encore une fois, c'est la population dans laquelle il y a le moins de pauvres. C'est la population dans laquelle il y a le plus de riches. Alors, évidemment, ce qui est toujours compliqué avec les retraités, c'est que c'est une population qui est très hétérogène et que donc oui, évidemment, on va pas nier qu'il y a des retraités pauvres. Donc il y a beaucoup de retraités qui ne sont pas riches, mais les riches sont quand même des seniors, quasiment globalement.
Christian Chavagneux.
Enfin, il faut quand même rappeler que le niveau de retraite, c'est à peu près 2/3 des revenus que vous aviez lorsque vous étiez en activité. Donc c'est quand même moins que les revenus d'activité.
Mais comme vous avez moins de frais aussi, Christian.
Voilà, comme vous avez moins de frais, plutôt que de mesurer simplement le revenu, ce que fait l'INSEE, le Conseil d'orientation des retraites, c'est de mesurer le niveau de vie. Et là, ça tient compte combien il y a de personnes dans le ménage, est-ce qu'il y a des enfants, des petits-enfants ou pas. Et là, c'est vrai, Emmanuel a raison. Aujourd'hui, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, le niveau de vie d'un retraité, c'est à peu près 105% du niveau de vie d'un actif. Donc on peut se dire, ils sont beaucoup mieux. Sauf que l'effet statistique que j'indiquais tout à l'heure, à savoir que les nouvelles générations qui arrivent à leur retraite et qui ont eu les 30 glorieuses, beaucoup d'emplois, des carrières complètes, c'est ceux-là qui font monter le taux. Vous prenez les plus de 80 ans, ils sont à 100%, le même niveau que les actifs. Et le corps nous dit,
le conseil d'orientation des retraites nous dit,
je fais des scénarios en fonction de la productivité, de l'emploi, et dans tous les scénarios du Conseil d'orientation des retraites, c'est quoi? À l'horizon 2040, il y aura une baisse du pouvoir d'achat relatif, du niveau de vie relatif des retraités par rapport au niveau des actifs. Ce sera entre 90 et 95.
Je ferai remarquer à Christian que ce sera nous, les retraités actuels.
Non, bien sûr, ce sera nous. Oui. On aura un niveau de vie qui sera largement inférieur au niveau de vie des actifs d'aujourd'hui.
Donc
c'est ça la tendance. Oui. Et dans ce contexte-là, lorsqu'Emmanuel Macron tape sur les retraités, qu'est-ce que ça fait? Ça a trois effets macroéconomiques très dommageables. Le premier, c'est que ça augmente les inégalités. Le deuxième, c'est que les retraités, s'ils ont moins de revenus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont moins dépenser. Moins de consommation, ça fait moins de demande. Et nous, comme dit Emmanuel, nous, quand on projette ça, on va se dire, faut peut-être qu'on épargne plus. Les retraités qui consomment moins, nous qui allons consommer moins, l'effet macroéconomique, il est désastreux, il est dépressif.
Bon.
Oui, sauf que la réalité, c'est qu'encore une fois, vous êtes obligé de regarder le film, il n'y a pas que la photo. Et il faut bien rappeler à cette génération, alors, elle a eu cette chance. C'est qu'il n'y a pas.
C'est qu'elle a été la plus gâtée. C'est ce que vous allez nous dire.
Une génération dans l'histoire de l'humanité.
Ça peut être un peu loin là.
Trouvez-moi une génération qui a connu en 30-40 ans une telle élévation de l'âge de la durée de vie, une telle élévation des conditions sanitaires. C'est une génération quand même. Je sais qu'il y a eu la guerre d'Algérie, mais on peut pas la mettre sur le même plan que la première ou la deuxième guerre mondiale. Donc c'est une génération qui globalement n'a pas connu vraiment la guerre. C'est une génération qui a très peu connu le chômage.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme de justice, Emmanuel.
On travaillait même quand on n'avait pas de diplôme. Elle est devenue propriétaire pour quasiment rien. Et c'est une génération qui, n'oublions pas, a très peu cotisé pour sa retraite. Pourquoi? Parce que on l'entendait dans le ZAP. La répartition, c'est ça. Vous payez pour les retraités d'aujourd'hui. Donc c'est une génération qui a payé des cotisations quand il y avait peu de retraités et beaucoup d'actifs. Donc voilà.
Bon,
et
vous êtes en train de nous dire que c'est de la justice.
Allez-y. Je me permets de leur dire à nos chers retraités
parce
que j'adore.
Parce qu'ils vont vous écrire, vous le savez très bien.
Je sais très bien qu'en plus, cette génération s'est en plus permis de creuser des dettes d'une ampleur sans précédent. Donc, alors, si je dis que c'est une génération égoïste,
je ne sais pas de quoi vous parlez.
Les dettes publiques, elles viennent d'où? les 100% de dette publique.
Je pense que les retraités vont vous dire que c'est pas, ils n'ont pas choisi individuellement.
Je ne dis pas que c'est de leur faute. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont eu la chance d'appartenir à une génération dorée et que je ne trouve pas anormal que cette chance qu'ils ont eue, bah, ils en fassent un petit peu maintenant profiter les autres. Ce qu'ils font d'ailleurs très largement à titre individuel parce qu'ils s'occupent beaucoup à la fois de leurs anciens et de leurs jeunes.
Allez, j'ai encore une question. Arrêtez d'emmerder les retraités. Là, Emmanuel Macron a tenu à tracer publiquement sa ligne rouge. Bon, Christian pense que c'est un peu hypocrite, mais voilà, il l'a tracé, il a dit là, ça suffit. Ce qui est intéressant, Christian, c'est qu'en même temps, le chef de l'État a enterré toute idée de réformer la fiscalité des successions. Il a dit, on ne touche pas aux héritages. Et ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Le patrimoine médian, c'est-à-dire 50% des Français ont moins, 50% des Français ont plus, c'est 158 000 euros. Le patrimoine médian des gens qui ont plus de 70 ans, c'est 157 000 euros. 158 000, 157 000. Donc, ils n'ont pas un patrimoine démesurément plus gros. En fait, les gens qui ont vraiment un gros patrimoine, c'est les gens qui ont entre 50 et 70 ans. Donc, on voit bien déjà que la taxation de l'héritage, c'est, ça ne concerne pas seulement que les retraités. Il faut prendre le problème avant. Pourquoi est-ce que La République En Marche a mis le sujet sur la table et le président de la République a dit on arrête ?
Christophe Castaner, oui.
Mais pourquoi ? Parce qu'avec le vieillissement de la population, les frais, les flux successoraux ne cessent d'augmenter. Ça représentait à peu près, ça représente à peu près 250 milliards d'euros chaque année. Ça veut dire à peu près moins de 20%, presque 20% du revenu des ménages, alors qu'en 1980, c'était 8,5%. Et d'après les projections des spécialistes, ça va représenter un quart des revenus des Français en 2050. Donc là, il se passe quelque chose d'important pour l'avenir des revenus, de la consommation et de l'économie française. Donc
ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a de plus en plus un déterminisme social et que la société...
Démographique qui va faire que demain, les flux successoraux qui sont déjà importants vont beaucoup progressé. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on redistribue ou pas ?
Nous devenons de plus en plus une société de rentiers.
Complètement. Et on prend combien sur ces 250 milliards ? 13 milliards, ce qui représente en gros un peu plus d'1% des recettes fiscales. C'est-à-dire aujourd'hui, pas grand-chose. Le taux moyen d'imposition, c'est 5%. Quand vous êtes en ligne directe, c'est-à-dire parents aux enfants, c'est en gros 2-3%. Les gens n'ont pas ces chiffres en tête. C'est 2-3%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on taxe pratiquement pas l'héritage dans une société où l'héritage est en train de prendre un rôle de plus en plus important. Est-ce que pour demain, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse cette société d'héritiers se développer ? Est-ce qu'on la laisse pas se développer ? Je sais bien qu'accroître la taxation sur l'héritage, c'est pas très populaire.
Ça fait partie des mesures les plus impopulaires. C'est-à-dire les Français pensent qu'ils sont déjà beaucoup taxés.
Il faut savoir que c'est un débat pour demain. Il va falloir qu'on le pose à un moment donné.
Emmanuel Le Chypre, c'est taxer les héritages, ponctionner plus sur ces flux. Est-ce que ça serait le bon moyen pour corriger les inégalités ? Peut-être pour faire circuler l'argent un peu plus tôt.
Je pense que c'est le facteur principal. Effectivement, si vous regardez les chiffres dans l'absolu, les taux qui peuvent grimper jusqu'à 60%, etc., on peut se dire, oh là là, en France, on taxe beaucoup. Et c'est vrai que si vous regardez ce que ça représente, les recettes en pourcentage du PIB, c'est plutôt plus que dans les autres pays européens.
Mais c'est tout petit.
Mais c'est 0,4 points de PIB, au Royaume-Uni c'est 0,2, à peu près pareil en Allemagne, parce qu'il y a plein d'abattements, et en fait c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne payent pas l'héritage. C'est dur de trancher le débat. C'est vrai que l'argument contre la taxation supplémentaire patrimoine, c'est de dire après tout, l'héritage, il est basé sur un patrimoine qui a été financé par des revenus qui ont déjà subi des taxations.
Vous allez faire vos courses, vous avez déjà payé l'impôt sur le revenu, pourtant vous payez la TVA. Donc c'est vous voyez, le raisonnement il tient pas.
On peut pas comparer des dépenses courantes avec la constitution
Patrimoine. Un logement, quand on s'endette pour acheter un logement, on l'achète avec de l'argent, on a déjà payé l'impôt sur le revenu et pourtant on va payer de la taxe foncière et de l'habitation.
Oui, mais c'est le résultat c'est quoi? Toujours l'argument de ceux qui sont contre la taxation de l'héritage, c'est de dire attendez, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez bâtir un héritage, si vous savez qu'on va vous en ponctionner beaucoup, vous êtes plus incité à bosser beaucoup quand vous arrivez à 50 ans et donc c'est une perte de richesse.
Ouais, sauf que c'est une perte. Les économistes appellent ça l'effet Carnegie, vous savez Carnegie, gros milliardaire qui un paquet d'argent, justement, qui veut pas laisser un paquet d'argent à ses enfants parce qu'il dit, et les études empiriques le montrent, plus vous laissez un gros paquet d'argent à vos enfants, moins ils entreprennent. En fait, pour avoir de l'entrepreneuriat.
Ce sont tous les milliardaires américains qui ne laissent pas les Gates, etc.
Alors, effectivement.
Et c'est pour ça.
Mais c'est aussi parce qu'ils sont très peu taxés durant leur vie active.
Effectivement, l'autre argument, c'est de dire, après tout, un héritier qui reçoit beaucoup d'argent, au nom de quoi il va mieux utiliser l'argent que quelqu'un qui est jeune, qui est brillant et qui n'a pas les moyens de se lancer dans l'investissement.
Tout à fait. Voilà. Alors, sans parler de ponction à chaque fois, on pourrait imaginer.
Non, mais la réalité, c'est que la meilleure solution. Pour faire circuler. Aujourd'hui, vous avez quand même effectivement, je crois que 56% des gens qui héritent, héritent à plus de 60 ans. Et donc, la meilleure solution, ce serait au contraire d'encourager, plutôt, c'est-à-dire de faciliter au maximum la donation. Et pour que ce capital circule de plus en plus, effectivement. Alors, il y a même des économistes, pour terminer, qui vont jusqu'à proposer, carrément, pour rétablir l'égalité des chances, de doter les jeunes à 18 ans, non pas d'un revenu universel, mais d'un patrimoine universel dont le financement serait fondé effectivement sur une taxation supplémentaire du patrimoine.
Bon bah écoutez, de toute façon, le débat y reviendra puisque là, ça a été enterré alors que c'était parfaitement macro-compatible. Hein, Emmanuel Macron, quand il était ministre
de l'économie,
libéral,
il devrait vraiment taper sur les héritages. Non, il le fait pas.
Voilà, cette capacité quand même à soulever des sujets extrêmement épidermiques pour les Français et qui sont quand même d'une importance relative à court terme.
Et ne rien faire derrière en plus. Voilà. C'est vraiment très macronien, vous avez raison.
On ne va pas polémiquer sur la stratégie de communication. On était sur les idées économiques. Christian Chavagneux et Emmanuel Le Chypre, voilà, donateurs d'idées, d'arguments, de leur vivant. 9h34 sur France Inter.
Et comme, sans taxe. Et sans,
comme tout, ils paient la redevance, nos éditeurs. Et comme tous les samedis, je vous propose d'aller voir l'économie ailleurs. Ce matin, direction Bruxelles, nous allons prendre des nouvelles de la charismatique commissaire à la concurrence. Bonjour Pierre Benazé.
Et bonjour.
Pierre, vous êtes le correspondant de France Inter à Bruxelles. Alors nous, on n'arrête pas l'écho, nous suivons de près l'action de Margrethe Vestager, la commissaire chargée de vérifier que les entreprises respectent les règles du jeu et donc leur juste part d'impôts, les GAFA par exemple. Pierre, après Apple, après Google, Margrethe Vestager, elle s'attaque à Amazon.
Oui, elle a fait quelques phrases mercredi, des phrases qui font sûrement froid dans le dos chez Amazon, qui a déjà eu à subir les foudres de la commissaire à la concurrence. Margrethe Vestager se demande comment Amazon gère les données clients des vendeurs qu'il héberge. La moitié des produits vendus sur Amazon le sont au titre de marchands tiers, des PME hébergés sur la plateforme, et qui peuvent ainsi bénéficier d'une surface d'exposition considérable, évidemment. En contrepartie, ces vendeurs payent évidemment une redevance à Amazon, mais la question de Margrethe Vestager, c'est maintenant de savoir s'ils ne payent pas un prix caché supplémentaire, à savoir qu'Amazon utiliserait les données de leurs clients à eux pour affiner sa propre stratégie commerciale. La préoccupation serait alors de savoir quelle est l'utilisation effective de ces données, si elles servent uniquement à dessiner les tendances des marchés ou encore les centres d'intérêt des acheteurs, ou bien si Amazon chercherait à capter les clients des clients hébergés sur sa plateforme. Clients des marchands hébergés sur sa plateforme. Amazon a déjà passé une fois sous les fourches codines des décisions de Margrethe Vestager, puisque la commission a sommé en octobre dernier le fisc luxembourgeois de lui réclamer 282 millions d'euros pour compenser les avantages fiscaux accordés à Amazon par le Luxembourg, le résultat d'un rescrit fiscal, ces décisions fiscales anticipatives.
Et Pierre, là donc on parle d'Amazon, mais je le disais, il y a eu Google, il y a eu Apple. Est-ce que au final, tout ce travail de la commissaire paye ?
Oui et non, parce que mercredi, Margrethe Vestager a dû annoncer à son grand dam que McDonald's n'aurait pas à rembourser le fisc luxembourgeois. Malgré une longue enquête portant sur des montants considérables, la commission s'est vue forcée de conclure que l'absence partielle d'imposition des bénéfices du géant des hamburgers respectait les lois en vigueur, et les lois de double imposition entre le Luxembourg et les États-Unis. Alors, c'est peut-être un revers pour Margrethe Vestager, mais à sa grande satisfaction, le Luxembourg va malgré tout modifier ses lois fiscales, ça a été annoncé cette semaine. Et puis, son bilan reste impressionnant, avec surtout ce remboursement par Apple, 14 milliards d'euros au fisc irlandais, des dizaines et des centaines de millions qu'ont dû rembourser Fiat, Starbucks, Engie et d'autres enquêtes sont en cours, comme par exemple pour les Pays-Bas et Ikea.
Pierre Benazé, merci, avec nous depuis Bruxelles. Dans la prochaine demi-heure, retour en France. Nous continuons à parler de nous, après les retraités, les précaires. Nous parlons des CDD qui explosent, qui sont de plus en plus courts. Question, faut-il taxer pour lutter contre la précarité ?
Alors je me trouve à côté de la gare Montparnasse, beaucoup de passages, hein. Forcément beaucoup de bars, beaucoup de restos, ils emploient beaucoup en CDD, donc les patrons ils doivent avoir un petit avis sur le bonus malus proposé par le gouvernement bientôt. Allez, on va leur poser la question.
Un petit café ? Allez-y. Macron ne taxe que les petites entreprises, de toute façon, les personnes qui n'ont pas les moyens de vraiment, et alors qu'ils veulent faire travailler les gens.
Vous employez beaucoup de CDD ici ?
On emploie quelques CDD, oui.
Donc la taxation sur les CDD, pour vous, c'est...
possible de le garder, donc c'est licenciement. Les CDD, ça nous permet également d'avoir du personnel et de faire travailler tout le monde. Une sorte d'aide aussi à certaines personnes qui font également leurs études.
UNIFA.
T'es CDD ici, toi, ou pas?
Oui.
T'es de cet avis ou pas?
Ben oui, si dès demain, on se retrouve avec des taxes sur nos CDD, ben, j'imagine, enfin, je pense plus qu'eux, ils puissent faire des CDD et que nous, nous puissions trouver du travail. Enfin, il faudrait surtout penser à ceux qui en ont le plus besoin.
Moi, je m'appelle Luan et je suis photographe.
Et donc, t'es serveuse ici depuis juillet?
C'est ça. C'est des contrats à courte durée, donc du coup, pour l'emploi, c'est pas tip-top au long terme. En parallèle, tu dois trouver un logement, donc je vais te chercher un peu ailleurs, quoi. En tant que bah, CDI, quoi. Parce que je sais qu'ici, c'est que CDD, donc du coup, il faut faire CDI, chercher moi-même.
Entrer sur le marché du travail grâce au CDD, bon, maintenant, c'est la norme. Mais y rester en empilant les contrats ultra courts, en effet, c'est devenu un problème. Pour les salariés, comme Luan, et pour le système d'indemnisation. Hein. Ça l'indemnise, Luan, lorsqu'elle fait ses allers-retours entre le travail et le chômage. Le chiffre est inquiétant. Aujourd'hui, 2 CDD sur 10 ne durent qu'une journée. Et souvent, les précaires sont réembauchés chez le même employeur. Alors faut-il sanctionner ceux qui abusent? Par exemple, faut-il alourdir leur cotisation à l'assurance chômage? Souvenez-vous, c'était la promesse de campagne du candidat Macron, le bonus-malus. Aujourd'hui, la question est de nouveau sur la table. Le bonus-malus, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est faisable? Écoutez le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Je m'appelle Diana Gréguer, je suis membre du MEDEF dans la catégorie femmes entreprises de moins de 20 salariés. J'ai été élue sur ce critère-là. Alors, je suis franchisée boulangerie Paul sur la région Île-de-France, 12 magasins sur 5 départements.
Est-ce que vous diriez que dans vos magasins Paul, l'emploi précaire, entre guillemets, ou flexible, dirons-nous, est dominant?
Alors non, il n'est pas dominant, mais c'est un outil aujourd'hui qu'on utilise par rapport à la saisonnalité de notre activité. En fin d'année, on a besoin de contrats étudiants, de contrats à temps partiel ou même de CDD temps plein, également pendant l'été.
D'accord, donc le CDD, si j'ai bien compris, en fait, ça peut être vu comme une sorte de variable d'ajustement à laquelle on a recours aux besoins.
Exactement.
Et
pour
vous...
moi, c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé pour divers motifs. Hein. On peut avoir aussi bien de la maladie que de l'accident du travail, que de la maternité.
Le gouvernement qui veut taxer les CDD courts, vous en pensez quoi?
On continuera à employer ce type de contrat, mais par contre, on l'utilisera par parcimonie. Après, ça va également dépendre de la taxation. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des accords de branche qui vont nous permettre à nous de s'organiser correctement et le gouvernement nous laissera. Ça va dépendre aussi des choix qui sont faits.
C'est donc aux partenaires sociaux de trouver un accord. Hôtellerie, restauration, événementiel, ils se mettent autour de la table sous le regard attentif de l'UNEDIC.
Valentin Lopez, j'ai rendez-vous pour une interview avec Mme Léon.
Marie-Lise Léon est secrétaire générale adjointe de la CFDT. Elle s'occupe des questions d'emploi et d'assurance chômage.
Bonjour.
Un secteur professionnel ne peut pas se satisfaire d'avoir un modèle de contrat qui ait des durées de moins d'un jour. Ça peut d'ailleurs avoir des effets pervers de secteurs entiers qui s'organisent en fonction avec des contrats très courts, en sachant qu'il y aura un complément de l'assurance chômage pour permettre à ces salariés d'avoir des revenus complémentaires.
Donc ici, on se trouve à l'UNEDIC. C'est quoi le rapport entre ces bonus-malus et l'UNEDIC?
Un salarié qui a un contrat court, lorsqu'il travaille, il acquiert des droits dont il peut bénéficier et c'est l'assurance chômage donc que gère l'UNEDIC, qui est un organisme paritaire, et c'est donc l'UNEDIC qui verse les allocations chômage.
Le but de ce bonus-malus, ce serait un peu, en quelque sorte, de soulager les caisses de l'UNEDIC.
Alors c'est à la fois soulager les caisses de l'UNEDIC, notre idée c'est surtout de lutter contre la précarité.
Est-ce que pour vous, ça pourrait marcher?
Il y a plusieurs versions du bonus-malus. Il peut y avoir taxer les employeurs qui utilisent beaucoup le recours à ces contrats courts en volume et en nombre de contrats. Nous, on avait plutôt émis l'hypothèse de travailler sur une dégressivité des cotisations pour encourager vraiment qu'il y ait un effet de modification des comportements des employeurs et qu'ils soient incités à aller vers des contrats de plus longue durée.
Inciter, punir, quoi qu'il en soit, pour Philippe Wagner qui donne des conseils juridiques aux TPE et aux PME, la réponse se trouve dans le cas par cas.
Bonjour.
Bonjour.
Ce principe de bonus-malus est séduisant s'il vise à réduire la précarité de l'emploi pour ceux qui en sont victimes, et derrière que ce soit une vraie incitation au CDI pour les entreprises. Je pense qu'il convient, avant de vouloir appliquer ce système de bonus-malus, de regarder en détail quels sont les secteurs concernés, quelles sont les tailles d'entreprises où il est pertinent de mettre cela en place. On peut par exemple prendre l'exemple des grandes entreprises qui pourraient, si un malus devait être instauré de manière arbitraire, tout simplement avoir recours à des prestataires, des sous-traitants, ne plus recruter de CDD, mais finalement exiger de ces sous-traitants qu'ils soient au même tarif que précédemment, et donc que ces sous-traitants soient dans l'incapacité d'y trouver leur compte, parce qu'eux-mêmes seraient obligés de recruter des gens en CDD.
Vous disent quoi les TPE, les PME avec qui vous êtes en contact? Elles aimeraient embaucher en CDI, mais le souci souvent auquel elles sont confrontées, c'est qu'elles ne peuvent pas se le permettre ou qu'elles n'osent pas se le permettre, c'est ça?
Beaucoup des motifs de recours au CDD dans les TPE-PME sont parfaitement légitimes. La question que se posent les TPE-PME et le problème que ça représente pour eux, cette histoire de malus, c'est que dans le cas évidemment des recours légitimes à des contrats courts, à des CDD, le problème c'est que ça va augmenter le coût de l'emploi et donc c'est potentiellement un frein à la création d'emplois. Chaque secteur d'activité va devoir être creusé au cas par cas. Est-ce qu'on est dans l'hôtel, café, restaurant ou est-ce qu'on est dans un autre secteur d'activité où il y a moins besoin d'avoir recours au CDD? Le problème c'est qu'en créant des cas particuliers pour l'application de ce principe du bonus-malus liés à des secteurs d'activité ou à des tailles d'entreprise, on va pas forcément vers une simplification du droit du travail, mais bien vers une complexification encore de ce marché, même si, encore une fois, cette mesure est séduisante et peut aider à diminuer le chômage d'une manière générale.
Des séduisantes, selon Yannick Lorty aussi, directeur de la Fédération de recherche, travail, emploi et politique publique du CNRS, mais il pose les conditions.
C'est une piste intéressante. Ça correspond à un dispositif qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, qu'on appelle l'experience rating, qui vise en fait à moduler les taux de cotisation en fonction d'une utilisation jugée parfois excessive par les entreprises de contrats courts ou de contrats donc à durée déterminée. Attention, il ne faut pas confondre cette mesure avec une taxation pure et simple des contrats à durée déterminée qui, elle, si on commence à manipuler de façon uniforme le taux de cotisation, ça peut pénaliser beaucoup d'entreprises et avoir des effets plutôt négatifs sur l'emploi in fine.
Parce qu'on parle quand même de secteurs assez variés, hein. J'imagine que la situation n'est pas forcément la même pour l'hôtellerie, pour le médico-social, pour la restauration, pour l'événementiel.
Il y a des différences très fortes entre les secteurs d'activité. Il y a certaines entreprises dans certains secteurs qui font face à des pics d'activité soudains. Parfois, ces pics sont imprévisibles et parfois ils le sont. Et donc, elles ont besoin de recourir à des contrats courts pour des raisons ponctuelles et plus ou moins prévisibles. Vous citez l'événementiel. On peut effectivement citer dans l'agriculture, pour la récolte de fruits et légumes, on a aussi des pics d'activité qui impliquent d'avoir des emplois saisonniers et aussi des contrats courts, donc des contrats à durée déterminée.
Est-ce que c'est le cas aussi dans le médico-social, puisque on entend souvent parler, par exemple, d'EHPAD qui embauchent beaucoup en contrats courts, en contrats voire très courts?
Le recours par les EHPAD à des contrats courts ne paraît pas justifié ni par une cyclicité particulière de l'activité, ni par une imprévisibilité de l'activité particulière.
Et le bonus-malus pourrait changer ça? Les entreprises vont pas juste se dire « bon, bah j'arrête d'employer des CDD, par exemple, et j'ai recours à la sous-traitance ».
Si c'est bien organisé, c'est une mesure qui va permettre de détourner un peu les incitations vers des contrats plus stables si l'action est bien différenciée selon les situations des entreprises.
Le bonus-malus sur les contrats courts. Quel avenir pour une promesse de campagne? C'était le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et deux invités dans le studio 521 ce matin pour poursuivre la réflexion. L'économiste Éric Heyer, bonjour.
Bonjour.
Et le juriste Pascal Lokiec, bonjour à vous.
Bonjour.
Avec la sociologue Dominique Méda, vous publiez ce livre, Une autre voie est possible. Alors ce matin, l'actualité, c'est le gouvernement qui veut qu'on réécrive les droits et devoirs des chômeurs. Il y a un an, jour pour jour, le 22 septembre, Emmanuel Macron signe les ordonnances travail. Qu'en pensez-vous? Est-ce que réécrire des règles, ça peut faire baisser la précarité, le chômage? Pascal Lokiec.
En fait, on est dans une logique qui est la suivante. Pour résoudre les problèmes de la France, il faut toucher au modèle social. Il faut toucher au code du travail, c'est ce qu'ont fait les ordonnances. Et maintenant, il faut toucher à l'indemnisation du chômage. Ce qu'on a essayé de montrer dans notre ouvrage, c'est que le modèle social n'est pas coupable. Il y a d'autres raisons. Et malheureusement, une fois de plus, on suit la voie classique qui est attaquons-nous aux droits des salariés, attaquons-nous aux droits des chômeurs.
Mais c'est ce qu'on fait l'Allemagne, le Royaume-Uni. Eric Heyer, ils ont réformé, il y avait les lois Hartz en Allemagne, et ça a marché. Ils sont à quoi, 4-5% de taux de chômage?
Ah, si vous jugez à l'aune de certains critères comme effectivement le niveau du chômage, vous pouvez dire effectivement ça fonctionne. Alors après, il faut creuser à la fois sur la qualité des emplois qui ont été créés à ce moment-là, et puis surtout le modèle qui est derrière. Enfin, le modèle derrière ces réformes-là, c'est de gagner en compétitivité, et donc de faire comme moteur principal de votre activité le commerce extérieur. Est-ce que c'est une stratégie qui est une stratégie de grand pays? On dit que non. C'est-à-dire que cette stratégie-là a comme revers tout de même des excédents colossaux dans le pays qui le fait, mais du coup des déficits.
L'Allemagne, par exemple, oui.
L'Allemagne, mais du coup des gros déficits pour les autres pays. On ne peut pas tous être excédentaires. Ou dit autrement, il y a une réussite allemande, il faut quand même la constater, mais ce n'est pas un modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous être dans ce modèle-là. Ça provoque ensuite, si tout le monde se lance dans cette stratégie-là, d'abord une moindre efficacité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous avoir 9 points d'excédent de sa balance courante. Et puis, d'un autre côté, on voit les conséquences négatives, à la fois soit déflationnistes, soit de guerre commerciale. Donc, attention à ce type de modèle qui doit être un peu plus équilibré. C'est-à-dire que si on va vers cette stratégie qui vise uniquement à gagner en compétitivité, il faut dire, attention, en Europe, il va falloir un tout petit peu rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que si la France se lance là-dedans, ça veut dire que l'Allemagne devra y renoncer quelque part. Et ça, on sait qu'elle ne veut pas y renoncer.
Mais là, vous vous placez au niveau international, au niveau national, tout simplement, Pascal Lauquiec, si on dit, si on contrôle plus les chômeurs, si on les pousse à prendre un peu plus le premier ou le deuxième emploi qui se présente, qui leur est offert, est-ce que ça n'est pas bon, finalement, pour la société?
Non, c'est pas que ça... Bien sûr que c'est bon pour la société, mais on fait comme si les chômeurs ne voulaient pas travailler. Aujourd'hui, on a un dispositif juridique qui est en place. Les chômeurs ont l'obligation de prendre les offres raisonnables d'emploi. Donc, on met tout sur le dos des chômeurs, et je ne pense pas que le problème ce soit ça. Le problème, c'est qu'on a des pénuries d'emplois, et on propose aux chômeurs des emplois qui ne sont pas forcément adéquate avec ce qu'on appelle une offre raisonnable d'emploi.
Les partenaires sociaux doivent dire s'ils acceptent ou non la négociation sur l'assurance chômage. Que devrait-il faire, Eric Heyer?
Là, c'est assez compliqué de répondre à leur place, mais aujourd'hui, avoir comme finalement l'aide de cadrage et comme principal objectif de réduire de 4 milliards, enfin de faire des économies de 4 milliards, je pense que ce n'est pas la solution. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, si on regarde, alors c'est peut-être un problème, hein, c'est ce que un économiste, Bruno Coquet, essaye de mettre en avant, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un sort de corps pour l'assurance chômage, et ça serait assez intéressant
d'avoir d'orientation des retraites.
Voilà, c'est-à-dire d'avoir des chiffres un peu clairs pour avoir un débat qui est un peu plus transparent. Mais aujourd'hui, si on le regarde de près, si on se fie à ses travaux, et c'est sans doute lui qui est allé le plus loin dans l'analyse
Absolument.
De l'assurance chômage, c'est que globalement, si on regarde juste cotisation-prestation, c'est relativement équilibré, même c'est complètement équilibré, avec 9% de chômage. Donc ça veut dire que l'assurance chômage n'est pas si généreuse que ça. Assurer un équilibre avec 9% de chômage, vous voyez que ça veut dire que c'est un risque assez élevé. S'il y a une dette, parce qu'il y a une dette de l'assurance chômage qui est élevée, qui représente 35 milliards, c'est-à-dire que c'est à peu près le niveau des prestations, une année de prestations et de cotisation chômage, c'est parce que l'assurance chômage finance aussi des politiques de l'emploi. Et ces politiques de l'emploi, puisqu'elles sont un peu universelles, elles devraient être financées par un impôt. Et donc c'est en cela où on devrait, et c'est ce qu'on essaye aussi de dire dans notre livre, c'est que on devrait regarder de plus près est-ce que les prestations sont universelles ou assurantielles. Et lorsque c'est universel, ça doit être financé par de l'impôt. Et lorsque c'est assurantiel, par des cotisations. Et donc, moi, je pense qu'on devrait sortir certaines dépenses de l'assurance chômage et le financer par un impôt, et notamment les politiques de l'emploi. Et là, on verrait que finalement, les partenaires sociaux ont plutôt bien géré cette assurance chômage. Et donc, c'est ça qu'ils devraient mettre en avant. Mais ça veut dire qu'il faut être transparent dans les comptes. Et donc, il faudrait qu'on ait ce fameux corps pour l'assurance chômage.
Est-ce qu'Emmanuel... Là, on est à presque 18 mois de pouvoir d'Emmanuel Macron. Est-ce que les réformes se sont enchaînées? Le logement, la loi Élan, la santé, le plan pauvreté, le travail. Est-ce qu'il transforme profondément notre modèle social? Est-ce qu'on vit une transformation? Est-ce que c'est le mot, Pascal Lauquiec?
Ça n'est pas une transformation. On est dans la suite de ce qu'on a connu ces 20 dernières années. Si je prends l'exemple du droit du travail, les ordonnances Macron sont dans la droite ligne des réformes qu'on a depuis les 20 dernières années. Par exemple, la promotion de la négociation collective d'entreprise par rapport à la négociation collective de branche, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 20 ans. Les ordonnances Macron le prolongent. Le barème des indemnités de licenciement, cette idée qu'il faut plafonner les indemnités de licenciement, sur lesquelles nous sommes très critiques dans l'ouvrage. C'est une idée qui a une vingtaine d'années, qui est promue par le patronat, et que le président Macron lui-même, alors qu'il était ministre de l'économie, avait promue. On est dans la droite ligne. Donc il n'y a pas, c'est pas un nouveau monde, c'est le prolongement de réformes et d'une tendance qu'on a depuis une vingtaine d'années.
Donc le nouveau monde n'existe pas, Éric Heyer, ni droite ni gauche, les choix de politique économique, il n'y a pas des recettes qui marchent là. Vous dites que ce sont de vieilles recettes ?
Alors ça, on est effectivement dans des recettes qui sont proches de ce qu'on appelle le consensus de Washington. Il n'y a effectivement rien de nouveau. Il n'y a pas cette idée de rendre la croissance soutenable, mais non pas d'un point de vue budgétaire, mais d'un point de vue environnemental. Il n'y a pas cette idée d'augmenter la qualité, l'innovation, qui était un peu la stratégie de Lisbonne des années 2000. Tout ça a quand même disparu. Donc on est effectivement dans un monde relativement dans la droite ligne de ce qu'on a fait dans les pays anglo-saxons. Et ce qui est
étonnant... C'est Blair ?
Bah, c'est un peu Blair, c'est un peu aussi ce qui s'est passé aux États-Unis. Et ce qui est étonnant, c'est de le faire aujourd'hui, alors que dans ces pays-là, où si on regarde les chiffres macroéconomiques, tout va bien. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils ont un chômage extrêmement faible, une croissance qui est relativement soutenue, avant le Brexit en tout cas pour le Royaume-Uni, mais aux États-Unis. Et pourtant, les citoyens de ces pays-là disent « on aimerait un autre monde ». On sort il y a le Brexit au Royaume-Uni, on vote pour Trump aux États-Unis. Ça veut bien dire que derrière les chiffres macroéconomiques, il y a une réalité qui
pousse
du déclassement et qui est une réalité, c'est-à-dire un déclassement qui pousse au populisme. Et se dire, alors on est très loin, nous en France, de ce modèle-là, mais essayer d'aller dans ce modèle-là est étonnant lorsqu'on voit les réactions de ces citoyens-là.
Pascal Lokiek. Une autre voie est possible, par où ? Alors là, vous dites que ça ne marche pas, ce sont des vieilles recettes. Par où commencer, une autre voie ? Pour le juriste, et puis ensuite je poserai la question à l'économiste.
Eh bien, il faut déjà commencer à admettre que le modèle social n'est pas responsable. Donc déjà, ne pas s'attaquer au code du travail comme point de départ. Et notre idée, c'est qu'il faut se lancer dans un grand plan d'investissement. Il faut mettre en priorité l'écologie, le social, l'humain. On en est arrivé aujourd'hui à considérer que le but d'une société, en général, c'est le bien-être d'une entité économique comme une entreprise, que le but, c'est de réduire les déficits. Moi, en tant que juriste, je dirais que le but d'une régulation, c'est plutôt de promouvoir des valeurs, de promouvoir le bien-être, de promouvoir le bonheur. C'est comme si vous voulez, le bien-être d'une entreprise était aujourd'hui prioritaire par rapport au bien-être des personnes. Donc notre objectif, c'est que le but de nos sociétés, ce soit de promouvoir l'humain, le social, l'économique.
Alors l'ambition est noble, mais là c'est peut-être une question pour l'économiste. Vous le dites, Pascal Lokiek, vous dites il faut un grand plan d'investissement. Éric Heyer, on approche 100% de dette publique.
Oui, mais justement, c'est au nom. Alors sans doute, vous voyez qu'aujourd'hui les règles budgétaires sont remises en cause par tout le monde. Outre-Rhin, il y a un centre de recherche qui dit qu'il faut sortir de ces 3%. Le CAE en France dit oui, bien sûr, il faut sortir de ces
3%. Ça, ce sont les critères de Maastricht.
Donc, critères de Maastricht. Le problème, c'est que ces deux règles-là, qui vont dans le bon sens, laissent quand même comme principal objectif de revenir à 60% de dette publique. On peut aussi s'interroger sur 60% de dette publique. Quelle est la signification de ce 60%? Pourquoi à 60% on irait mieux qu'à 90%? Vous voyez, on a vécu longtemps avec un article de Reinhard Terogoff qui nous disait c'est 90% le bon critère, c'est-à-dire qu'au-delà, c'est pas bon, mais en deçà, c'est bon. Et on a vu que ce 90%, c'était trafiqué. C'est-à-dire que, donc, moi, il me semble qu'il ne faut pas raisonner comme cela. C'est ce critère de dette sur
PIB. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la menace des marchés financiers.
Il y a
quand même des contraintes qui font que tous les politiques...
Il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir une bonne gestion de la dette publique, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette dette publique. Si, au nom de la réduction de la dette publique, on oublie qu'il faut faire des investissements dans l'éducation, on oublie qu'il faut faire des investissements dans l'environnement, alors on se trompe de voie. C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'endette pour des bonnes raisons, pour donner un
monde
meilleur à nos enfants.
Mais
les marchés suivront si c'est bien expliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est s'endetter uniquement pour du fonctionnement d'aujourd'hui, là, les générations futures vont effectivement être lésées et sans doute les marchés financiers vont dire c'est pas acceptable. Mais si c'est s'endetter pour l'avenir, sans doute ça peut fonctionner. Et en tout cas, moi je préfère laisser à mes enfants de la dette publique, mais un monde un petit peu meilleur en termes d'environnement et d'éducation, plutôt que 60% de dette publique et un monde dans lequel on ne peut pas respirer et où il y a des inégalités dans l'éducation.
Une autre voie est possible. Voilà, ils veulent rejouer le match. Éric Ayer, Pascal Lokiek et Dominique Méda, c'est publié chez Flammarion. Merci à vous d'avoir été sur France Inter.
Merci. Merci.
Allez, ma vie au boulot, Sandrine. Nous avons un courrier de Judith, enfin vous avez, qui travaille dans une agence de communication. Sa responsable lui reproche de ne pas être suffisamment souriante. Est-on obligé, Sandrine, d'afficher sa bonne humeur au travail?
Obligé, non, Judith. Personne ne peut vous contraindre à sourire en permanence, même si la pression est de plus en plus forte pour que nous soyons tous d'un naturel avenant, avec les clients, mais aussi avec les chefs et les collègues. Si vous êtes plus Jean-Pierre Bacri que Stéphane Bern, a priori, vous ne risquez rien. Le conseil des prud'hommes de Cannes a fini par donner raison à une femme, maître d'hôtel, qui avait été licenciée pour manque d'amabilité envers les clients. Les juges ont considéré que le fait de ne pas sourire, de ne pas être affable, pouvait constituer une faute, mais pour eux, ce n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement. Alors évidemment, on préfère tous travailler avec des collègues qui ne tirent pas des têtes de 6 pieds de long, mais il faut accepter que parfois, il n'est pas envie de déborder d'enthousiasme. Aux États-Unis, pourtant champion du Big Smile, une étude explique que nier ses émotions se forcer à sourire serait néfaste pour la santé et même pour la productivité. À force de jouer un rôle, on multiplierait les pathologies comme les insomnies ou le mal de dos et forcément ça rejaillit sur le travail. Donc Judith, si l'on en croit ces chercheurs qui ont étudié les chauffeurs de bus, ne forcez pas votre nature, ça ne vous empêchera pas d'être très pro dans votre boulot.
Mais vous l'avez quand même dit Sandrine, il existe une sorte de diktat du sourire.
Absolument, je suis allée voir des sites de coaching. Alors le sourire devrait être remboursé par la Sécu. Savez-vous, nous dit l'un de ces sites, qu'un sourire réduit le niveau d'hormone du stress, le cortisol, qui se trouve dans votre organisme. Savez-vous qu'en souriant, vous vieillissez moins vite, que les gens qui sourient sont plus chanceux dans la vie, que ce chantre de la pensée positive a d'autres conseils. Avec le temps, si vous pratiquez bien, vous supporterez mieux les irritants de la vie de bureau. Vos journées passeront plus vite et en prime. Le sourire est le plus beau maquillage que vous pouvez vous offrir. Cette exhortation au bien-être et à toutes ces formes de feel-good thérapie est le sujet du dernier livre d'Eva Illouz et d'Edgar Cabanas qui s'appelle Happycratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Vous y trouverez matière à réflexion, Judith. Ces chercheurs expliquent comment s'est saisie de ce sentiment tellement personnel et combien dans notre monde libéral, chacun devient responsable de ses échecs, de ses réussites et même de son bonheur. Vous verrez Judith, ça donne le sourire.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.